Il est 7h.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le vendredi 22 mars. Bonjour à tous, bienvenue sur France Inter. Bernadette Chamonas, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, Bernadette, pas de Brexit dans une semaine. Les Européens accordent un délai jusqu'au 22 mai, mais sous condition que le Parlement britannique vote enfin l'accord. On voit ça, Bernadette, en détail après les autres titres.
Benalla, nouvel épisode politico-judiciaire ultra sensible. Le Sénat saisit la justice sur les cas de trois collaborateurs clé de l'Élysée. Information Radio France, le maire du Havre démissionne. Plusieurs femmes l'accusent de leur avoir envoyé des selfies pornographiques. Gilets jaunes, toujours la peur des casseurs. Champs-Élysées bouclés, les commerçants redoutent que la violence ne se déporte ailleurs. Nous irons à Venezuela après le raid policier chez le bras droit de l'opposant Guaido. Détox, minceur et même anti-cancer, ces produits qui nous mentent. Enfin, prêt pour l'exposition de tous les frissons, la splendeur tout en camant à la Villette.
Les invités de France Inter en ce vendredi à 7h50, l'humoriste Blanche Gardin. Elle est sur la scène de l'Européen à Paris avec son spectacle Bonne Nuit Blanche et elle sera donc tout à l'heure au micro d'Ali Badou. 8h20, retour sur cette phrase d'Emmanuel Macron. Le moment que nous vivons ressemble à l'entre-deux-guerres. On la soumettra tout à l'heure au philosophe Michael Fessel qui publie Récidive 1938 au Presse universitaire de France. Vos questions dès maintenant, le standard est ouvert. 01 45 24 7000.
France Inter.
Il y avait urgence, ne pas se fracasser dans le mur du 29 mars, date officielle du Brexit jusqu'à présent. Mais hier soir à Bruxelles, après 7 heures de débats exaspérés, les 27 ont donné un nouveau délai à Theresa May. Il reporte le Brexit au 22 mai, mais attention, cette date est assortie de conditions. Vous nous les expliquez, Bertrand Galichet, vous qui avez suivi ce sommet de Bruxelles une nouvelle fois au bord de la crise de nerfs.
Première option, le Parlement britannique adopte dans les jours qui viennent l'accord de Brexit longuement négocié entre Bruxelles et Theresa May. Dans ce cas, les 27 acceptent de différer la sortie du Royaume-Uni au 22 mai, veille des élections européennes. Deuxième hypothèse, si le vote des communes est négatif, la date butoir est ramenée au 12 avril, dernier délai pour que la Grande-Bretagne décide ou pas d'organiser le scrutin. Le choix laissé à Londres offre les meilleures garanties à l'Europe, explique Emmanuel Macron.
Nous avons donné des options et apporté une réponse à la Première ministre Theresa May. Mais avec des limites et nos conditions.
En offrant une nouvelle chance au Royaume-Uni, Bruxelles préserve aussi ses propres intérêts et ne baisse pas la garde, assure Jean-Claude Juncker.
Quoi qu'il arrive, nous sommes prêts pour toutes les éventualités, y compris l'absence d'un accord sur le Brexit, un no deal, car gouverner, c'est prévoir.
Avec ce délai, les 27 s'épargnent aussi l'organisation dans l'urgence d'un nouveau Conseil européen la semaine prochaine, après le vote aux communes. Bruxelles, Christophe Papon, Bertrand Galichet, France Inter.
Exaspération des Européens, d'une partie des Britanniques aussi. Au Royaume-Uni, une pétition en ligne demandant au gouvernement de renoncer au Brexit a dépassé les 2 millions de signatures. Sur France Inter, vivez les coulisses du sommet européen hier avec Cyril Graziani. Cyril Graziani qui nous livre cette information. En marge du sommet, Emmanuel Macron a invité Angela Merkel et le président de la Commission européenne à rencontrer le président chinois qui arrive en visite officielle en France dimanche.
Il est 7h04, Bernadette. Et une autre information France Inter, le maire du Havre a démissionné.
Luc Lemonnier, successeur d'Édouard Philippe à la mairie du Havre, il savait depuis hier après-midi qu'une enquête commune de France Bleu Normandie et de la cellule investigation de Radio France allait publier les témoignages de quatre femmes qui l'accusent de leur avoir envoyé des selfies pornographiques. Ces témoignages, vous pourrez les entendre dans le journal de 8h. Benalla, un nouvel épisode politico-judiciaire s'ouvre, ultra sensible encore. Encore une fois, ils mettent aux prises les deux plus hautes instances politiques du pays, le Sénat et l'Élysée. Hier, le bureau du Sénat a saisi la justice des cas de trois collaborateurs clés de l'Élysée, Alexis Kohler, Patrick Strauda et le général Lavergne, en plus des cas qu'il accuse de faux témoignages comme Alexandre Benalla et Vincent Crase. Sarah Guibaudot.
Pour les sénateurs, Alexandre Benalla a menti sur plusieurs points, comme la restitution de ses passeports diplomatiques, il s'en est servi par la suite, et son mystérieux contrat russe. Il aurait négocié la protection rapprochée d'un milliardaire alors qu'il travaillait encore à l'Élysée, tout comme le gendarme Vincent Kras. Le directeur de cabinet du président Patrick Stroda est pour sa part soupçonné d'avoir minimisé le rôle d'Alexandre Benalla dans la sécurité du chef de l'État. La justice appréciera. Le délit de faux témoignage est en théorie passible de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Il n'existe qu'un précédent récent pour une commission d'enquête parlementaire. Le médecin Michel Aubier, qui avait été interrogé sur la pollution de l'air sous serment, a été condamné à 20 000 euros d'amende pour avoir dissimulé qu'il était salarié de Total. Le Sénat va aussi signaler à la justice qu'Alexandre Benalla n'avait pas déclaré à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ni ses revenus ni ses liens d'intérêt. La Haute Autorité s'en est déjà saisie. L'Élysée a depuis envoyé au chargé de mission une piqûre de rappel.
Il est 7h06, gilet jaune, plus que jamais la peur des casseurs.
Une semaine après la casse sur les Champs-Élysées, l'exécutif a pris pourtant de nouvelles dispositions, militaires de sentinelles en renfort, manifestations interdites dans les quartiers sensibles, à Paris, les Champs-Élysées bouclés, mais la violence peut arriver de tous côtés, redoutent les commerçants que vous avez rencontrés sur les grands boulevards. Yann Gallic.
Sur les grands boulevards, une quarantaine de magasins ont subi des dégradations. Les commerçants s'inquiètent, car ce week-end, les casseurs pourraient encore faire des dégâts dans le quartier à cause de l'interdiction de manifester sur les Champs-Élysées. Bruno Blancard préside l'association des commerçants des grands boulevards.
Ce que l'on craint, si vous voulez, c'est le report éventuel de toutes les manifestations qui se déroulaient sur les Champs-Élysées et qu'elles se reportent sur les grands boulevards. Donc ça nous fait peur, parce que ça, pour le coup, on n'est pas du tout armé ni préparé à ce genre de choses. Non seulement il y a le risque par rapport aux magasins, des actes de destruction éventuels, mais au-delà de ça, sur un plan économique, ce sont des petits commerces, des petites structures assez fragiles.
Les renforts militaires annoncés par le gouvernement ne rassurent pas forcément les commerçants. Aurel Sarfati possède une boutique de prêt-à-porter. Il a déjà eu affaire aux casseurs samedi dernier.
Quand on met des planches de bois pour nous protéger, ils les enlèvent. Donc soit on sort et on se bat avec eux, mais c'est très dangereux parce qu'ils sont armés de grosses barres métalliques là, qu'ils ont enlevées sur des chantiers, alors que nous on est à main nue, ou alors il faut qu'on s'arme, mais on ne va pas s'armer quand même.
Et vous redoutez le samedi qui vient ?
Ah oui, parce que est-ce qu'ils vont venir chez nous ? Est-ce qu'ils vont aller à Saint-Germain ? Franchement, c'est pas notre métier de nous défendre contre des dingos.
La plupart des commerces resteront ouverts demain sur les grands boulevards, malgré la crainte de nouvelles violences.
Manifestation également interdite dans le centre de Nice, qui a été choisi comme point de ralliement par les Gilets jaunes en province demain. Au Venezuela, le pouvoir accentue la pression sur l'opposant Guaido. Il expédie dans l'une des pires prisons du pays son bras droit, le député Marrero, qu'il accuse de terrorisme. À Caracas, Benjamin Delisle.
Le ministre de la Justice ne s'est exprimé qu'en fin de journée sur la chaîne publique vénézuélienne. Selon Nestor Reverol, l'arrestation de Roberto Marrero a permis de démanteler une cellule terroriste qu'il dirigeait.
Il est directement responsable de l'organisation de plusieurs groupes criminels. Nous avons retrouvé à son domicile de nombreuses armes de guerre et de l'argent liquide en devises étrangères.
Une explication inacceptable pour l'opposition qui réclame sa libération. Juan Guaido condamne un acte vil, lui aussi menacé d'arrestation pour avoir bravé son interdiction de sortie du territoire fin février. Il accuse le gouvernement d'essayer de l'intimider.
Comme ils ne peuvent pas arrêter le président par intérim, ils s'en prennent aux proches, menacent les familles et enlèvent un député. Le régime montre beaucoup de faiblesse en croyant que ce genre d'opération va créer de la peur ou de la division. Notre projet va évidemment continuer.
C'est à l'étranger que la réponse a été la plus ferme. L'arrestation de Roberto Marrero a été condamnée par de nombreux pays qui ont reconnu Juan Guaido comme président par intérim. Washington a même menacé le Venezuela de lourdes sanctions si le député n'est pas libéré rapidement. Caracas, Benjamin Delisle, France Inter.
Et le président auto-proclamé Juan Guaido dénonce une manœuvre vile et grossière. Merci président Trump pour votre courage. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou remercie le président américain qui reconnaît la souveraineté d'Israël sur le Golan. En 1981, l'État hébreu a annexé ce plateau à la frontière syrienne, ce que l'ONU n'a jamais reconnu. Il vous mente, Foodwatch, l'ONG de défense des consommateurs, a plongé son nez dans les rayons des supermarchés et déniché au moins une vingtaine de produits vendus sous de grandes marques aux promesses alléchantes, détox, minceur, énergie et même anti-cancer, mais des promesses mensongères, Manuel Ruffez.
Ces promesses, c'est du vent. Elle est formelle, Ingrid Kragel, la directrice de l'information de Foodwatch, devant une vingtaine de produits posés là sur une table. Des produits très courants qu'on trouve partout et surtout dans des rayons bien-être.
Des thés infusions, des margarines, des jus vendus souvent en frigo qui vous font des promesses santé hallucinantes. Vous allez être plein d'énergie, antioxydants, vous allez avoir votre système immunitaire boosté, etc. Les tisanes au choix, elles vont soit vous faire de la détox, de la minceur, vont même vous donner de la joie de vivre.
Et c'est abracadabra, en rajoute-t-elle. Souvent pas avéré, en tout cas pas dans ces quantités-là. Mais pas illégal non plus, parce que c'est à la Commission européenne de légiférer et qu'elle ne le fait pas. Le consommateur, lui, se fait avoir. Et ce sont les fabricants, souligne Megan Gorbani, responsable de campagne Foodwatch, qui en profitent.
Aujourd'hui, les industriels sont dans la légalité de nous induire en erreur, puisqu'ils peuvent utiliser des allégations qui ne sont pas attestées, ou jouer sur les quantités, ou jouer sur les produits qu'ils utilisent, tout en étant autorisés à le faire. Donc c'est ça le problème, c'est que c'est les autorités aussi qui doivent agir, et que les industriels doivent prendre conscience d'arrêter de décider des règles du jeu là où il n'y en a pas.
Plus grave enfin, l'ONG s'attaque à un site en ligne, biologiquement.com, qui vend des produits dont certains portent la mention anti-cancer, et là, c'est illégal.
Manuel Ruffez, en football, le quart de finale aller de la Ligue des Championnes, remporté 2-0 par Chelsea hier soir contre le PSG, qui voit ainsi ses chances d'aller en demi-finale diminuer. Quant aux champions du monde, ils commencent leur campagne de qualification pour l'Euro 2020 par un match en Moldavie ce soir. En tout début de semaine, ici même, dans la matinale, nous vous le disions, on retient son souffle. Eh bien, demain, on pourra prendre une grande inspiration et plonger dans l'exposition tant attendue, Toutankhamon, le trésor du pharaon, 150 objets, un 36e seulement, des près de 5400 découverts dans son tombeau, 130 000 entrées ont déjà été réservées, Isabelle Pasquier.
Je suis le pharaon d'Égypte et je suis lié par des obligations qui m'ont été imposées par les dieux.
Devant le trésor de Toutankhamon, on a presque les mêmes frissons que devait ressentir Howard Carter quand il découvre le tombeau en 1922. Cette exposition, c'est une invitation au voyage dans la vie de l'au-delà du plus légendaire pharaon d'Égypte. On traverse les portes de la mort qui vont mener Toutankhamon jusqu'à sa résurrection à travers 150 objets dont 60 n'ont jamais quitté l'Égypte, comme ce lit en bois recouvert de feuilles d'or ou cette paire de gants en lin qu'a peut-être porté le jeune roi. Et là, avec Vincent Rondeau, le directeur des antiquités égyptiennes du Louvre, on s'arrête devant ces bandelettes qui recouvraient sa momie.
Il s'agit des premières parures en or incrusté de pierres semi-précieuses, de pâtes de verre, etc., qui sont destinées à organiser la protection magique de la momie pour permettre son voyage dans l'au-delà.
Alors, quid de la malédiction autour de Toutankhamon ? L'égyptologue Dominique Farou s'en amuse.
S'il y avait une malédiction, c'est Carter qui serait mort. Le mot fake news n'existait pas, mais c'en était bien. C'est-à-dire, vous voyez, et 100 ans plus tard, ça marche encore, donc c'est un joli coup.
Dans l'Égypte ancienne, on mourait deux fois. Une première mort physique, la seconde, quand plus personne ne prononce le nom du défunt. Toutankhamon a un pass illimité pour l'éternité.
Oui, bien, Nicolas Demorand, on prononce tous les jours votre nom, donc vous êtes bien vivant.
Oui.
Toutankhamon, c'est à la grande halle de
pas
la
encore momifié. Merci Bernadette Chamonaz. Premier point route, Caroline Pommes, bonjour.
Bonjour.
Accident, Caroline, sur la rocade bordelaise.
Oui, sur la rocade extérieure, après avoir dépassé l'Ormont, une voiture a perdu le contrôle sur la bretelle de la sortie numéro 27. Soyez vigilants. Deuxième accident à signaler sur l'A6 dans Lyon, direction Auxerre. Accident à hauteur de Saint-Romain-le-Preux, après la sortie 18 pour Joigny.